Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voudrions à cette soirée, ou au début de cette soirée, partager avec vous la parole de Dieu. Et avant que nous ne puissions faire la lecture de cette parole que nous voulons partager ensemble, j'aimerais d'abord que nous soyons conduits dans la prière. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, ô notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as gardés le long de la semaine. Tu nous as fait du bien. Tu nous as gardés sous ta protection. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette occasion que tu viens de renouveler à nous pour que nous puissions être là pour écouter ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous comptons sur ton esprit. Et c'est cet esprit, Seigneur, qui va parler à nous et qui va nous permettre à ce que nous puissions interpréter ta parole comme il se doit, et que les auditeurs qui auront à suivre cette parole et soient bénis par toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous recommandons à toi. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, la parole que nous voulons partager est tirée du livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 13. Et nous allons lire ce chapitre 13 à partir du verset 13 jusqu'au verset 43. Et je voudrais conduire la lecture au nom de Jésus. Actes des Apôtres 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 43. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et après avoir exterminé 7 nations au pays de Cana, il les mit à possession de leur territoire. Ce qui dira environ 450 ans. Et après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent au roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: « Je ne suis pas, moi, ce que vous supposez, mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous, les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en les jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, et c'est ce qu'il avait dit, « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras par ton sang voir la corruption. » Or, David, après avoir, dans la génération, servi le dessein des dieux, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, là je suis au verset 38, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui quiconque croit être justifié de tout ce dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 42. À leur sortie, on les invitait à parler de ces sujets les sabbats suivants. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce des dieux. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour attendre la parole des dieux, parole du Seigneur. Le thème de notre méditation de ce soir, c'est Dieu de toute fidélité accomplit la promesse du salut. Dieu de toute fidélité accomplit la promesse du salut. Mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, peut-être même ceux qui nous côtoient, se sont déjà forgés des images taillées sur Dieu. Et ils considèrent ces dieux comme un homme, comme une personne à part entière. Et vous entendrez dire, dans votre vie au quotidien, les gens se dire sur Dieu, Nayenimutu. Et cette représentation des dieux nous donne matière à réfléchir. Mais parce que nous sommes toujours portés par des images que nous dessinons nous-mêmes dans notre conscience. Mais la parole de Dieu, quand elle nous parle de Dieu, elle nous présente ces dieux-là comme celui qui ne change pas. Et la Bible dit, en Dieu il n'y a aucune ombre de variation. C'est qu'il reste immuable, il ne change pas. Et que le dessein ou bien le projet qu'il arrête dans son éternité, il ne manque pas à l'accomplir. Et alors que beaucoup de personnes sont infidèles, ou beaucoup de personnes sont infidèles par rapport à leurs paroles, mais Dieu, et c'est Dieu à qui il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Le livre de Lamentations de Jérémie, au chapitre 2, verset 17, nous dit « L'Éternel a exécuté ce qu'il avait décidé. Il a accompli la parole qu'il avait décrétée dès les temps anciens. » C'est que notre Dieu est fidèle et il est fidèle à sa parole. Il ne dit pas une parole et l'a reniée plus tard, mais il reste accroché à sa parole pour l'accomplir. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous avons lu nous présente Paul dans un de ses voyages missionnaires. Vous savez bien que Paul a effectué plusieurs voyages qui sont qualifiés de missionnaires parce qu'il passait de ville à ville pour prêcher la parole de Dieu. Et notre texte que nous avons tiré de Actes des Apôtres chapitre 13 nous dit que Paul et ses compagnons vont quitter Paphos pour se rendre à Perge, à Pamphylie. Et de Perge, ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et à la fois, il est intéressant, mes bien-aimés, de remarquer que Paul et ses compagnons se sont rendus dans la synagogue. Ils sont rendus dans la synagogue parce que dans la synagogue se réunissaient à la fois les juifs et les non-juifs qui avaient trouvé du plaisir à partager la foi en un seul Dieu avec les juifs et on les appelle les prosélytes. Alors que le chef de la synagogue était en train de lire, oui, le rouleau de l'Ancien Testament, et alors, après avoir lu, nous dit la parole, après avoir lu la loi et les prophètes, la parole de Dieu nous dit que le chef de la synagogue, oui, ont invité à Paul à ce qu'il prenne la parole, une parole d'exhortation. Et Paul a pris la balle en bon pour rappeler tant aux juifs qu'aux non-juifs à que le salut et en Jésus-Christ. Que Dieu a accompli sa parole pour sauver l'être humain et pour sauver l'humanité tout entière. Et si Paul a s'est donné beaucoup de mal, ou si Paul s'est donné tant de mal pour rappeler l'histoire du salut qui s'est accompli à Jésus-Christ, c'est pour montrer que personne ne peut se dérober de ce salut et que nous tous, Israélites comme prosélytes, Israélites comme non-juifs, sommes tous concernés par le salut que Dieu a accompli à Jésus-Christ. Et même si les Israélites étaient au bénéfice, oui, de choses tout à fait particulières parce que Dieu s'est révélé à cette nation de façon particulière, c'est que les Israélites, ou bien la nation juive, étaient au bénéfice d'un régime spécial parce que elle a été au bénéfice de la révélation des dieux. Mais Paul voulait montrer combien que les Israélites aussi ont besoin d'expérimenter le salut des dieux, même s'ils ont été au bénéfice de la présence agissante des dieux dans leur histoire, à travers le miracle que Dieu avait opéré dans leur histoire. Par exemple, le fait de faire sortir le peuple d'Israël par sa main droite de la servitude d'Égypte pour le faire traverser la mer Rouge, là, Israël était au bénéfice des hauts faits des dieux, du miracle que Dieu avait opéré à sa faveur. Mais au-delà de tout ça, Paul avait montré que les Israélites qui étaient au bénéfice de tous ces miracles ont besoin du salut que Dieu a accompli à Jésus-Christ. Et quant aux non-juifs, et aussi avaient leur morale, leur moralité, certainement qu'ils observaient les coutumes de la société à laquelle ils appartenaient. Et là, encore une fois, Paul va rappeler à ces non-juifs qu'ils ont besoin aussi, comme les juifs, du salut que Dieu a accompli à Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens se trompent en croyant que être au bénéfice des miracles et des dieux, c'est ça, le salut à que Dieu a accompli à leur faveur. Loin de là, mes bien-aimés, ce n'est pas le fait que vous avez été au bénéfice des miracles que Dieu a accompli à votre faveur, que cela c'est le synonyme de votre salut. Il y en a d'autres aussi dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Ils croient que leur moralité est une voie autorisée pour accéder au salut de Dieu. La parole de Dieu ne le dit pas à ces termes-là. La parole de Dieu le dit autrement, que le salut n'est ni dans les hauts faits que Dieu te fait expérimenter dans ce qu'il accomplit à ta faveur, que le salut n'est ni dans la bonne moralité, même si elle est importante, pour permettre à ce que le vivre ensemble dans la société soit possible. Mais le salut, c'est dans ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Et le malheur de l'être humain, c'est quoi? Le malheur de l'être humain, c'est qu'il a un plan pour son salut, comme s'il était possible de se sauver lui-même, comme s'il avait la capacité de se sauver lui-même. Il se donne une bonne conscience et croit que les choses doivent se passer de la manière dont il a arrêté ça dans sa tête. Le livre de Rois, au chapitre 5, il nous présente un homme extraordinaire, un homme qui avait déjà le plan de son salut. Et cet homme s'appelle Naaman qui est un général de forces armées syriennes. Et si vous lisez le chapitre 5 du deuxième livre de Rois, vous les trouverez là. Alors que Naaman voulait être sauvé parce que on avait constaté qu'il commençait à souffrir de la lèpre. Et la lèpre, vous savez bien, dans la Bible, représente tout notre état de péché. Mais comme il ne pouvait pas se sauver lui-même de cette lèpre-là, et Dieu avait mis sur son chemin une petite, une adolescente qui était au service de ce grand général qui était connu comme un grand parce qu'il volait des victoires à victoire, il remportait des victoires de guerre. Mais voilà que une adolescente va le mettre sur le chemin du salut. Esclave de son état, et pouvait être traité comme une bête de somme, mais voilà que c'est elle qui va mettre Naaman sur le chemin du salut. Ce général qui volait de victoire à victoire, mais qui avait besoin du salut, de la guérison des dieux. Et pour être guéri, pour accéder au salut, il avait déjà le plan de son salut dans sa tête. Et la parole des dieux nous montre qu'il avait ces plans-là parce que il se disait que quand il va aller auprès du prophète Élisée et que Élisée va sortir à sa rencontre et que Élisée va considérer tout le rang de Naaman en tant que général, c'est qu'il va sortir précipitamment pour aller à sa rencontre et faire juste un petit truc pour que Naaman puisse retrouver sa santé, d'où son salut. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, mes bien-aimés. C'est que le prophète Élisée n'est même pas sorti à sa rencontre. Il a envoyé juste un garçon de course pour aller dire ce message à Naaman. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine.
et tu seras pur. Quelle gifle pour un général. Alors qu'il s'attendait à autre chose. Alors qu'il s'attendait que le prophète va, quand le prophète va apprendre qu'il était à la porte, il va sortir précipitamment pour aller à sa rencontre. Mais ça n'a pas été le cas. Mais à fait de compte, c'est dans l'obéissance à la parole du prophète et dans la pratique de cette parole que Naaman a accédé au salut. Il a été guéri de sa lèpre. Alors que la lèpre pouvait envahir son corps, mais par l'obéissance à la parole du prophète et dans la pratique de cette parole, Naaman a retrouvé sa restauration. Naaman a été au bénéfice du salut. La parole de Dieu en Romains chapitre 5 verset 8 nous dit que Dieu a manifesté son amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Alors vous comprendrez, mes chers auditeurs de la radio Rao FM, vous comprendrez maintenant avec moi que être sauvé, nous en avons besoin. C'est un besoin réel. Être sauvé, c'est d'abord comprendre que nous étions des ennemis des dieux et que par son amour et au nom de cet amour, Dieu en Jésus-Christ est venu nous chercher dans les bourbiers dans lesquels nous étions. Être sauvé, mes bien-aimés, c'est de reconnaître que Dieu a accompli sa part pour notre salut et qu'il nous sollicite pour venir à lui pour que nous puissions bénéficier du pardon de nos péchés et qu'en croyant en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous puissions bénéficier de la justification des dieux. Et la parole des dieux de dire, ce que la loi de Moïse n'a pu faire. Ce que la loi de Moïse était incapable de faire, voilà qu'à Jésus-Christ, cela a été possible. Je vous ai dit que notre thème, c'est quoi? Dieu de toute fidélité accomplit la promesse du salut. La promesse du salut s'est accomplie en Jésus-Christ. Ce que la loi de Moïse n'a pu faire, Dieu l'a accompli à Jésus-Christ. Ce que la loi de Moïse et la tradition juive ne pouvaient pas donner aux Juifs, voilà que ça a été accompli à Jésus-Christ. Ce que la loi juive et la tradition juive ne pouvaient pas pardonner le péché. La loi juive et la tradition juive ne pouvaient que indiquer à que voilà tu as fait mal. Mais ça ne pouvait pas te mettre sur le chemin d'accéder au pardon. Et l'apôtre Paul de dire en Galates que la loi c'est comme un pédagogue qui nous montre seulement le chemin, mais ça ne nous fait pas arriver au bout du chemin qui est le salut que Dieu a accompli à Jésus-Christ. La loi juive, ou la tradition juive, la loi de Moïse, ne pouvait pas justifier un pécheur. Par contre, elle le culpabilisait davantage. La loi juive et la tradition juive nous montrent que si tu as commis un péché, il n'y avait pas une issue de pardon pour toi. Et c'est ça ce que nous trouvons même dans la moralité qui est la nôtre, dans la morale qui est la nôtre. Je vous ai dit que la morale ou la moralité, c'est quelque chose de bien dans la société. Parce que ça nous permet de vivre ensemble, de reconnaître que je ne dois pas agresser l'autre d'une quelconque manière que cela puisse être. Mais je dois à la fois vous dire ceci, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez à ce moment, à que la morale ou la moralité, l'observance et la pratique de nos coutumes ne peuvent jamais nous faire accéder au salut. Vivre une bonne moralité, c'est une chose, mais c'est une bonne chose aussi parce que tu permets à ce que la société puisse respirer et puisse continuer à survivre par ta moralité. Mais ça ne peut jamais, je dis jamais, ça ne peut jamais te faire accéder au salut des dieux. La bonne moralité ne peut jamais conférer le salut. Tu peux beau faire des efforts pour plaire aux gens par ta bonne conduite, par ton observance de coutumes et traditions de la culture à laquelle tu appartiens, mais cela ne peut jamais te faire accéder au salut des dieux. Dieu continue à te rappeler qu'il a fait un chemin pour te faire accéder à son salut. Pour que tu sois pardonné de tous tes péchés, pour que tu sois compté parmi ceux ou celles à qui sont justifiés. Dieu ne veut pas ce soir, mon bien-aimé, que tu puisses faire l'expérience de Naaman qui avait déjà le plan de son salut avant d'aller rencontrer le prophète des dieux. Mais son expérience, l'expérience de Naaman, a montré que son plan du salut a échoué complètement et que dans sa vie, dans son histoire, il devait faire une autre expérience, c'est d'être à l'écoute de la parole du prophète et d'obéir à cette parole en vue de la pratiquer. Mon frère et ma sœur, je venais de le dire que ta moralité, même si ça paraît inouï devant ou dans la société dans laquelle Dieu te permet de vivre, mais cela ne peut jamais, je dis jamais, ne peut jamais te faire accéder au salut des dieux. Accéder au salut des dieux, c'est de faire une expérience. Cette expérience que d'accepter ce que Dieu a accompli à Jésus-Christ et que cela suffit largement pour que tu sois sauvé. Jésus sur la croix a s'est écrié en ces termes, tout est accompli. C'est que l'histoire de ton salut s'est réalisée en Jésus-Christ. Et à s'écriant de cette manière, il veut t'inviter à ce que tu puisses réaliser cela dans ton existence personnelle. L'expérience qui nous est demandée de vivre, ou l'expérience qui nous est demandée de faire, bien-aimé toi qui m'écoutes, c'est celle de savoir que c'est pour nous que cette parole du salut a été envoyée, comme nous l'avons lu dans les textes de méditation. C'est aussi celle de savoir, c'est aussi l'expérience de savoir que par Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés et la justification, c'est que l'observance des coutumes, c'est que l'observance de la loi de Moïse pour les Juifs ne pouvait jamais, jamais donner. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes à cette soirée, mon bien-aimé, si Dieu a accompli sa promesse du salut en Jésus-Christ, il t'attend. Et en te posant la question de savoir qu'est-ce que tu attends pour te décider aujourd'hui d'accepter ce Jésus en qui s'est accomplie la promesse de ton salut. Dans le texte que nous avons lu, vers la fin de notre lecture, vers le verset 42 et 44, et là nous voyons déjà une expérience qui s'est passée pour à ceux qui ont écouté la parole des dieux dans la ville d'Antioche de Pisidie. La parole des dieux nous dit que toute la ville d'Antioche de Pisidie, selon le texte que nous avons lu, a une réaction positive. C'est-à-dire que tous les habitants d'Antioche sont venus écouter la parole de Dieu, cette parole du salut. Et toi, cher auditeur de cette radio, qu'est-ce que tu attends pour te détourner de ta moralité et de te tourner vers Dieu qui est capable de te sauver? Ne compte pas, s'il te plaît, sur ta bonne moralité. ne compte pas sur ce que tu as hérité de tes parents et cet héritage qui consiste à la connaissance de Dieu qui existe, mais sans pour autant avoir fait l'expérience de la rencontre personnelle avec celui qui a été envoyé pour que tes péchés soient pardonnés et pour que tu aies la justice et la justification de Dieu. Il t'est demandé de faire une nouvelle expérience dans ta vie, celle d'intégrer dans ta vie quelque chose de plus profond. Écoutez, chers auditeurs, vous valez plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous valez plus que cette moralité dans laquelle vous vous êtes enveloppé. Vous valez plus que cette connaissance que Dieu existe parce que Dieu a accompli le salut à Jésus-Christ. Il veut vous voir. Il veut vous voir sur le chemin de ce salut pour que vous puissiez donner votre vie tout entière à celui qui est mort et ressuscité pour votre salut. Et une fois vous aurez fait cette expérience du salut des dieux, vous allez être au bénéfice d'une transformation profonde et même de votre moralité. Vous n'allez plus compter sur cette moralité-là pure, mais vous allez plutôt vous laisser être transformé au quotidien parce que tel est ce qui doit se passer dans votre vie. Vous allez vous laisser être révisité, même votre moralité être révisitée par les saluts que Dieu nous donne en Jésus-Christ et pour être à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si vous avez compris la nécessité d'une telle démarche dans votre vie, si vous avez compris que, à dépit de votre moralité, que vous avez besoin d'être revisité par le salut de Dieu, je vais vous demander à ce que vous puissiez prier avec moi et que moi je vais prier aussi pour vous. Prions le Seigneur. Seigneur, tu viens de nous parler. Tu viens de nous rappeler, au travers de ta parole, à que notre salut, c'est à Jésus-Christ que tu as offert comme cadeau pour l'humanité tout entière. Et que par sa mort et sa résurrection, nous avons le salut. Seigneur, je te prie pour cet auditeur, je te prie pour cette auditrice, pour que Seigneur, que tu lui fasses du bien. Seigneur, à l'amener vers toi pour que il ou elle soit capable d'expérimenter des choses nouvelles avec toi. Et tout cela ne peut se faire que si cet auditeur, cette auditrice a écouté ce message et a donné sa vie à toi. Oui, Seigneur, je te demande à ce que tu suscites la foi dans le chef de chaque auditeur et chaque auditrice pour que Seigneur chacun et chacune puisse être capable de déceler à que au-delà et au-dessus de cette moralité qui l'enveloppe, il y a la promesse du salut accomplie à Jésus-Christ par laquelle tu lui tends la main pour que Seigneur, il ou elle revienne à toi. Permets Seigneur que cela soit l'expérience que chacun et chacune de ces auditeurs et auditrices a fait, que cela soit une réalité de sa vie. Merci Seigneur de nous conduire sur le chemin du salut. Merci Seigneur parce que tu nous dis de venir humblement au devant de toi pour que nous puissions être au bénéfice de cette expérience. Oui Seigneur, je te demande à ce que cet auditeur et cette auditrice soient capables de t'ouvrir la porte de sa vie. Parce que cette porte qui est spéciale dont le poignet est à l'intérieur, à que chacun puisse l'ouvrir afin que tu fasses ton entrée et que cet auditeur et cette auditrice soient au bénéfice du salut que tu veux lui donner. Merci Seigneur parce que ta grâce va faire son cheminement normal dans le chef de nos auditeurs pour que chacun et chacune fasse cette expérience. Que tu sois glorifié à jamais pour cette grâce Seigneur, que tu as commencé dans le cœur de nos bien-aimés, afin que, Seigneur, que le salut soit effectif dans leur cœur. Merci de nous conduire sur ce chemin. Merci Seigneur parce que tu vas produire beaucoup de choses. Et une fois, cet auditeur, cette auditrice a donné sa vie à toi. Que tu le bénisses Seigneur et que tu lui fasses du bien en le conduisant sur le chemin du salut. Car nous te le prions dans les noms précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.